Radio Kapi.
Ouverture hier à Kinshasa des travaux du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne. À l'occasion, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a appelé les pays membres de l'Union européenne à plus d'investissements dans différents secteurs de la vie nationale en RDC. Qu'en est-il de l'existence d'un Wi-Fi gratuit dans les universités de la RDC, comme affirmé par le ministre de PTNTIC mercredi à l'Assemblée nationale? Radio Kapi s'est rendu sur les campus de l'université de Kinshasa pour le constater. Reportage dans ce journal. Notre invité, c'est le ministre provincial intérimaire de l'Intérieur de la province de la Tchopo. Jean-Pierre Litema a bouclé mercredi la première phase de sa tournée dans les 6 communes de la ville de Kisangani. Bonjour à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé appelle les pays membres de l'Union européenne à plus d'investissements dans différents secteurs de la vie nationale en RDC. C'était lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la troisième session du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne, hier jeudi 30 septembre. Il a émis le vœu de voir les échanges entre les partenaires investis à ce dialogue viser la recherche d'une plus-value telle que stipulée dans les accords de Cotonou. D'après le chef du gouvernement congolais, la coopération entre la RDC et les institutions financières internationales milite au soutien de la tenue de cette troisième édition du dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
Les travaux de ce dialogue portent sur trois dimensions en l'occurrence, la dimension gouvernance politique, économique et sécuritaire, l'environnement et gestion des ressources minières et non minières et enfin la dimension développement humain. Samalou Kondé, qui salue l'amélioration des relations diplomatiques vis-à-vis de la RDC, tient à ce que les apports de toute action de partenariat soit orientée dans le secteur que le gouvernement congolais s'est choisi à travers son programme défendu et adopté à l'Assemblée nationale. L'inscription de la RDC au registre des institutions de Bretton Woods et la volonté affichée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à faire sortir les masses laborieuses du marasme social m'incite à soutenir la tenue de ce dialogue politique avec l'Union européenne, a souligné le Premier ministre congolais. D'après lui, les retombées de ces assises sont attendues dans les domaines sociaux de base tels l'éducation, dont la gratuité de l'enseignement conduira le plus grand nombre d'enfants à accéder au système scolaire, la santé en vue d'améliorer l'état de la vie de chaque Congolais et limiter les effets du Covid-19, l'agriculture mécanisée extensive pour permettre de nourrir les 80 millions de Congolais ainsi que les infrastructures en vue de fluidifier le trafic des biens et des personnes et permettre la connectivité nationale en vue de joindre les quatre coins de la RDC.
Autre attente de Samalou Kondé de ses assises, c'est un appui substantiel dans le programme de démobilisation et de réinsertion des jeunes Congolais qui se sont laissés emporter dans la vague des violences, barbarie et tuerie à travers les groupes armés. Après les Sénats, l'Assemblée nationale a voté hier jeudi en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du pays. 275 sur 279 députés présents dans la salle ont voté pour la 9e prorogation de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu. Dans l'exposé des motifs, la ministre de la Justice, Rose Mutombo-Kiese, a justifié cette nouvelle prorogation par l'intensification des opérations militaires en cours dans les provinces de Ituri et du Nord Kivu concernés par l'état de siège. Pour le président de la commission défense et sécurité, cette nouvelle prorogation permettra au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations formulées mercredi à l'Assemblée nationale. Bertin Mubonzi est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est une obligation constitutionnelle. Chaque après 15 jours, le gouvernement vient devant notre chambre pour solliciter que l'état de siège soit prorogé, et ce qui a été fait aujourd'hui. Hier, nous avions présenté en plénière le rapport des auditions de l'évaluation de l'état de siège. Le président de la République, le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat, nous sommes tous dans une dynamique d'aller dans le sens de recommander de manière à améliorer les choses. L'état de siège à ce jour, certes, peut sembler avoir quelques coquilles qui posent problème, mais vous pouvez pouvais vous rassurer que nous avions recommandé, évidemment, au gouvernement. Nous pensons que si ces recommandations sont observées, il y a des choses qui peuvent être améliorées et permettre ainsi à l'état de siège de répondre à la préoccupation des Congolais et surtout du président de la République, la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Au cours de la même plénière, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, a affirmé avoir accordé 72 heures supplémentaires ultimes aux confessions religieuses et toutes les parties concernées par le processus de désignation des animateurs de la CENI, ce pour leur permettre de renforcer la cohésion et trouver une solution à la question de la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. D'autre part, l'Assemblée nationale se doit le devoir d'entériner tous les membres de la CENI au cours de ce mois et c'est sur la base des dossiers qui seront mis à sa disposition. Dans la province de l'Équateur, une vive tension a été observée hier jeudi à Mbandaka entre la population et les éléments de la police. Selon des témoins, ces derniers ont empêché un groupe de députés provinciaux, dont le président de l'Assemblée provinciale, d'accéder dans la salle pour l'ouverture de la session de septembre 2021. Cependant, pour d'autres députés, l'ouverture de la session s'est passée dans le calme. Alain Irung nous fait le point.
Fabien Mungunza, président de la société civile de l'Équateur que nous avons juin confirme qu'il y a eu des échauffourées entre la population qui accompagnait les députés du groupe DG13 qui sont pour le départ du gouverneur Bobo Boloko. Il dresse même un bilan.
Il s'en est suivi des affrontements avec des coups de feu qui ont été tirés et selon nos enquêtes, il y aurait deux blessés du côté de la population dont une femme est morte et un homme qui serait en train de recevoir des soins dans un dispensaire de la place.
Par contre, le député provincial Peter Lompo, c'est rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, membre du G7, groupe de sept députés présentés comme acquis à la cause du gouverneur Bobo Boloko, affirme qu'il n'y a eu aucun trouble, aucun blessé et même pas de mort comme cela se dit sur les réseaux sociaux.
Ni blessé, ni mort. Moi qui vous parle, j'ai parcouru lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux qu'on a tué des personnes, il y a des blessés. On a fait des tours partis par là pour découvrir là où se tiennent des deuils, où là on a logé les cadavres dans des morgues. On n'a jamais connu un mort.
Rappelons que le groupe de sept députés avait récemment initié une pétition contre le bureau définitif de l'organe délibérant, ce qui a conduit le 27 septembre dernier à l'installation du bureau d'âge dirigé par la députée provinciale Marie Molebo.
Notez que nous avons contacté le député Claude Bouka, président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, pour donner sa version des faits. Il a accepté, mais après, il n'a plus décroché son téléphone malgré notre insistance. Qu'en est-il de l'existence de Wi-Fi gratuit dans les universités de la RDC, tel qu'affirmait le ministre de PTNTIC, Augustin Kibasa, mercredi à l'Assemblée nationale, pour justifier la perception de la taxe RAM? Radio Okapi s'est rendu jeudi sur le campus de l'université de Kinshasa afin de vérifier l'existence de ce Wi-Fi. Constat fait, il existe bel et bien un Wi-Fi gratuit et accessible à tous les appareils téléphoniques ayant été en ordre avec RAM. Plusieurs étudiants attestent avoir l'accès à Internet 3 heures par jour, mais ils déplorent l'insuffisance du temps d'accès au Wi-Fi, mais aussi la lourdeur de la connexion. Michel Kifindangoy.
C'est depuis maintenant 3 mois environ que les étudiants de l'université de Kinshasa accèdent gratuitement à l'internet grâce à un wifi installé sur le campus. Mais cet accès est sous condition. Témoignage de cet étudiant en génie informatique.
Pour accéder, il faut d'abord être en ordre avec le paiement du service RAM. Au moment où tu accèdes, 3 heures après, la connexion s'arrête et puis tu vas te reconnecter le lendemain. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le wifi gratuit RAM qui est installé ici à l'université de Kinshasa, la connexion est vraiment trop lente et puis avec cette connexion, c'est impossible de suivre le cours en ligne.
Seulement, les 3 heures de connexion par jour sont insuffisantes, affirme cet étudiant en communication.
Comment est-ce qu'on peut conditionner cette durée par 3 heures? C'est insuffisant. Pendant 3 heures, quelles sont ces recherches-là qu'un étudiant peut mener? Et donc, la durée est insuffisante. Des fois, ça bloque, ça ne travaille pas rapidement quand il y a surcharge et aussi, ce n'est pas tous les téléphones qui ont accès.
Tout en saluant la gratuité du Wi-Fi, les étudiants de l'UNIKIN estiment qu'au regard de sa lourdeur, ce Wi-Fi ne permet pas de suivre les cours en ligne. Ils plaident donc pour l'amélioration du débit de la connexion Internet.
La dépouille de Joël Malou Shindani, étudiant congolais décédé le 2 août dernier en Inde dans un poste de police, arrive ce vendredi 1er octobre à 12h, heure de Kinshasa, dans un régulier d'Ethiopian Airlines. Il sera ensuite acheminé à la morgue de l'hôpital mondiale du cinquantenaire en attendant les obsèques. Selon maître Vincent Candolo, un des conseils de la famille qui livre ces informations, le corps du défunt a déjà été autopsié, mais selon la loi indienne, le résultat n'est divulgué qu'après 3 mois. Il le dit au micro de Jocelyn Poy.
À ce qui concerne l'autopsie, le corps a été autopsié, mais selon le droit indien, la loi indienne, le résultat prendra 3 mois. Donc, il vous souviendra qu'on avait prélevé le corps de Joël, c'était le 3 août, et mathématiquement, ils sont encore dans le temps. Donc, on attend.
Et donc, le résultat peut intervenir après les obsèques.
Effectivement, les résultats viendront après. Mais c'est que nous voulons d'abord enterrer dignement M. Joël Chindani.
Alors, comment se présente la suite de
programme? Bon, de prime abord, le corps arrive vendredi par Éthiopien. Ça sera à 12h. On ira là-bas en famille, accueillir le corps. Et de l'aéroport international de Njili, on se dirigera vers la morgue du cinquantenaire où le corps de Joël sera gardé jusqu'à lui rendre ses derniers hommages.
Avec le gouvernement congolais, comment se passe le pourparler autour, bien entendu, des obsèques de Joël Chindani?
Ce que je veux vous dire, nous sommes en contact permanent avec le gouvernement par le canal du VPM. Excellence Lutundula Apanapenapala. Et c'est suite à son intervention qu'on a eu à se rendre à l'Inde et jusqu'à ce qu'on est retourné au pays.
Lutte contre la COVID-19, un lot de 400 000 doses de vaccin Sinovac a été réceptionné mercredi dernier à l'aéroport international de Njili par le ministre de la Santé publique, l'ambassadeur de Chine en RDC, ainsi que des experts de l'UNICEF et de l'OMS. Ce nouveau lot est complémentaire aux différents types de vaccins déjà reçus en RDC. Plus de détails avec vous, Vicky Odia.
Selon la note d'information de l'UNICEF, la donation du gouvernement de la République populaire de Chine à la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre des accords bilatéraux entre les deux pays et vise à garantir un accès équitable au vaccin contre le coronavirus. Le vaccin Sinovac va aider la population pour prévenir et se protéger contre cette maladie qui a tué plus de 4 millions de personnes dans le monde et plus de 1080 personnes en République démocratique du Congo, a déclaré Dr Jean-Jacques Mbou. Bongani, ministre de la Santé publique. L'arrivée du vaccin Sinovac, approuvé par l'OMS le 1er juin 2021, offre à la population congolaise un vaccin sûr et efficace, complémentaire aux doses d'AstraZeneca, de Moderna et de Pfizer déjà disponibles dans le pays. Tous les vaccins sont stockés à Kinshasa avant d'être acheminés vers les sites de vaccination dans les 15 provinces prioritaires identifiées par les programmes élargis de vaccination FEV. Équateur, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai Oriental, Kinshasa, Congo Central, Kwilu, Lualaba, Maniema, Nord Kivu, Sud Ubangi et Tchopo.
Notez que le docteur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique des luttes contre la pandémie de COVID-19, a annoncé que la situation épidémiologique n'est pas alarmante en RDC, car il y a de moins en moins de cas positifs. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire tenue mercredi dernier, il a précisé que l'accalmie observée actuellement ne signifie pas tout de même la fin de la maladie. Il appelle à la vigilance pour éviter une nouvelle vague, souligne les sites d'information actualité. Par ailleurs, en rapport avec l'épidémie de méningite déclarée dans le nord-est de la RDC il y a 3 semaines, l'OMS a déclaré sur son compte Twitter qu'avec la surveillance, l'implication communautaire et la gestion des patients, le taux de mortalité est passé de 84% à moins de 10%. Et puis, allégations d'exploitation et d'abus sexuels par des agents de l'OMS lors de la riposte contre la 10e épidémie de Ebola au Nord Kivu et en Ituri, le ministre de la Santé et des Droits humains condamne fermement ce qu'il qualifie d'acte odieux. Les deux officiels congolais promettent que toutes les dispositions seront prises pour que les auteurs de ces abus sexuels ne restent pas impunis et que justice soit rendue aux victimes. Cynthia Bachizi, Nabizana, pour les détails.
C'est par des communiqués qu'ils ont eux-mêmes signés ce 29 septembre que les deux ministres ont réagi. D'abord, le docteur Jean-Jacques Mbungani fustige le comportement des agents d'organisations internationales censés apporter un soutien à l'État congolais pendant une période de fragilité. Voilà pourquoi la RDC demandera des comptes à tous les auteurs de ces actes répréhensibles où qu'ils se trouvent. Cette position du ministre de la Santé est confortée par son collègue de droits humains, outre son indignation. Fabrice Puella assure également que des enquêtes approfondies initiatives du gouvernement congolais seront menées sur terrain dans les prochains jours et que les responsabilités seront établies. Rappelons que, selon la commission indépendante qui a mené ces enquêtes, 80 cas d'abus sexuels auraient été commis en 2019 dans les principales zones de riposte contre Ebola, notamment à Mangina, Beni, Butembo, Komanda et Mambasa. La majorité des victimes qui ont accepté de témoigner auprès des enquêteurs sont des femmes dont l'âge varie entre 13 et 43 ans. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dubaï a lancé hier jeudi l'Expo 2020, le plus grand événement mondial depuis les débuts de la pandémie de Covid-19. C'est la première fois qu'une exposition universelle est organisée au Moyen-Orient. Les Émirats espèrent attirer des millions de visiteurs. Le prince héritier de l'Émirat tchèque Hamdan Ben Mohamed a officiellement inauguré la cérémonie d'ouverture de cet événement de 7 milliards de dollars avec des effets, des lumières et des concerts. Le secrétaire général de l'ONU a réagi par communiqué à l'annonce d'une expulsion d'Éthiopie de 7 responsables d'agences onusiennes. Toutes les opérations humanitaires des Nations Unies sont guidées par les principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, a-t-il tenu à rappeler, se déclarant choqué par cette décision. En Éthiopie, explique Antonio Guterres, l'ONU fournit une aide vitale, y compris de la nourriture, des médicaments, de l'eau et du matériel d'assainissement aux personnes qui en ont désespérément besoin, et d'affirmer avoir pleinement confiance dans le personnel de l'ONU qui se trouve en Éthiopie pour faire ce travail.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le ministre provincial en charge de l'Intérieur par intérim a bouclé mercredi dernier la première phase de sa tournée entamée depuis vendredi dernier dans les 6 communes de la ville de Kisangani. Il va boucler sa tournée la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a motivé toutes ces visites dans ces entités et quel bilan établir à mi-parcours? Jean-Pierre Litema Yeni s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Jean-Pierre Litema Yeni, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Qu'est-ce qui a motivé cette tournée?
Oui, messieurs les journalistes, je venais d'être instruit par le gouverneur des provinces, son Excellence Maurice Abibou Sakapela Bin Mungamba, qui a constaté que dans la ville de Kisangani, il y a eu un problème, celui de l'insécurité, qui commence à prendre des allures là un peu galopantes. Il m'a demandé d'effectuer une tournée et j'ai fait plus ou moins 3 communes pour essayer de parler avec les chefs de quartier, les chefs de bloc, les chefs d'avenue, pour qu'on arrive à décanter ces problèmes de l'insécurité. Maintenant, nous sommes partis sur le principe selon lequel Tchopo, une province sans Kuluna. C'est ça les mots que je suis en train de mettre dans la bouche des gens afin d'éradiquer l'insécurité.
Après avoir sillonné 3 communes, on peut établir maintenant un bilan à mi-parcours parce qu'il reste 3 autres communes à visiter, plus la collectivité secteur de Lubuya Bera.
La première des choses, la population est très satisfaisante puisqu'elle trouve que je suis en train de faire le terrain. Parce que très souvent, le problème du travail du ministre de l'Intérieur, ce n'est pas seulement de rester au bureau, il faut faire le terrain. Je suis sur le terrain et ils sont en train de me faire des propositions. Je suis en train de suivre le tout. Et ensemble, nous sommes en train d'effectuer un plan de travail que nous allons amorcer pour essayer de mettre hors d'état de nuire l'insécurité qui commence à galoper dans la ville de Kisangani. Donc je disais que le constat est vraiment très 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 satisfaisant.
Le constat est satisfaisant au moment où l'on déplore l'insécurité dans plusieurs communes, notamment dans la commune de Kisangani, dans la commune de Kabondo aussi. Plusieurs cas d'insécurité qui sont déplorés par la population. Comment pouvez-vous être satisfait?
Il y a de cela une semaine depuis que j'ai commencé la tournée, il y a une bonne évolution. Nous avions quitté 40% jusqu'à 90%. Ça signifie que le calme commence à revenir. La population est joyeuse. J'ai visité tout le monde dans leurs maisons respectives, là où il y a eu des dégâts, des problèmes. Et nos services de sécurité sont vraiment instruits. Nous sommes en train de faire un travail de titan pour que l'on arrive à donner les bons résultats. Pour le moment, il y a de cela une semaine qu'il n'y a pas eu de tirs de balles, il n'y a pas eu de vols à main armée. Ça signifie que la population est restée vigilante. On se communique et le travail commence à aller petit à petit.
Concrètement, comment comptez-vous lutter contre cette insécurité? Quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en place pour qu'on ne parle plus de Kuluna dans la ville de Kisangani?
La première des choses, c'est la collaboration qui existe entre nous, les autorités et la population. Les Kuluna qui habitent la ville de Kisangani doivent se retrouver devant une population qui n'aime pas les Kuluna, une population qui dénonce, une population qui ne cache rien, une population qui nous dit tout ce qui se passe. Puisqu'avant, la population, vous avait tourné le dos. Et pour le moment, comme il y a la parfaite collaboration, ça commence à aller et je me dis que c'est une bonne stratégie puisque la population elle-même s'implique.
Au point kilométrique 6 de la route de l'aéroport et du côté de la commune de Kisangani, les jeunes gens disent être délaissés et chaque fois qu'ils lancent de messages aux autorités, mais les autorités ne réagissent pas et il y a de faibles effectifs. Est-ce que vous avez pensé à cette situation?
Nous sommes là, nous devons réfléchir. Lorsqu'il n'y a pas assez d'effectifs, quelles sont les stratégies que nous devons arrêter pour dissuader les colonnes? Ce qui m'intéresse maintenant sur le terrain, c'est notre proximité avec la population. Ça, c'est de un. De deux, c'est la manière dont la population commence à dénoncer. De trois, c'est l'appropriation pour dire que nous ne voulons plus que dans nos maisons, on puisse faire habiter les colonnes. Ce sont là des stratégies que nous avions placées. Le problème de l'effectif est connu, mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons avoir des effectifs souhaités. Donc, il faut compter sur nous. Nous sommes là sur le terrain. On est en train de se battre. Le gouverneur est au courant. Nos services de sécurité sont au courant. Les résultats attendus sont déjà là. Nous allons nous battre pour remettre de l'ordre. Ou bien l'État existe ou l'État n'existe pas. Alors, lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, ça signifie quoi? Ça signifie que l'autorité de l'État, quel que soit son effectif, il peut toujours faire asseoir cette autorité. En défaut de là, ça devient la rébellion. Je suis ministre de l'Intérieur. Je tiens à remettre de l'ordre. Le gouverneur est à mes côtés. Il me soutient. Ça va aller.
Et que peut faire la population devant des personnes armées, des personnes détenant des armes à feu? Qu'est-ce que cette population qui ne dispose pas d'armes peut faire?
On peut neutraliser un colon dans la journée. Il suffit de l'identifier, de connaître sa maison. On passe l'information et nos services de sécurité sont là pour aller faire la perquisition. C'est l'ordre du procureur de la République. C'est une façon de les neutraliser. On ne pourra pas seulement agir la nuit. Même la journée, nous allons agir. C'est là les informations que nous allons recevoir de la part de nos populations.
Merci, monsieur le ministre.
Merci, messieurs les journalistes.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.